Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec aujourd'hui Jean-Guilain Meige à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Claire Delnat, Adèle Van Rett et Mathilde Unger. Mathilde, qui, après l'avoir préparée, participera à l'émission de ce matin. Post hoc, ergo propter hoc. Adèle, enfin, roumain trop roumain, qui prolongera tout à l'heure une semaine sur Sioran dans le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie cette fois-ci de Pierre Pachet. Tout se perd, ma bonne dame, et rien ne se crée. C'est la nuit, c'est la suite pour nous ce mardi d'une semaine sur l'imparfait du présent ou le discours critique de la modernité. Après Mehdi Belhaj-Kassem, venu hier nous parler d'Alain Badiou, avant que Marc Fumaroli ne vous parle demain de l'art contemporain et de ce qu'il en reste une fois qu'il en a parlé, les Nouveaux Chemins de la Connaissance accueillent aujourd'hui pour la première fois celui à qui cette semaine doit son titre, le mets contemporain par excellence, l'auteur de l'imparfait du présent, le producteur à France Culture, Alain Finkielkraut, l'intellectuel avec qui il est toujours passionnant, stimulant et parfois difficile de ne pas être d'accord. J'avais une belle maladie qui assombrit ma jeunesse, mais bien propre à l'historien, j'aimais la mort. J'avais vécu 9 ans à la porte du Père Lachaise, alors ma seule promenade, puis j'habitais vers la Bièvre, au milieu de grands jardins de couvents, autres sépulcres. Je menais une vie que le monde aurait pu dire enterrée, n'ayant de société que celle du passé et pour amis les peuples ensevelis. En faisant leur légende, je réveillais en eux 1000 choses évanouies. Certains chants de nourrice dont j'avais le secret étaient d'un effet sûr. À l'accent, ils croyaient que j'étais un des leurs. Le don que Saint-Louis demanda et n'obtint pas, je l'eus, le don des larmes. Bonjour Alain Finkielkraut.
Bonjour,
bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Nous vous accueillons donc pour la première fois. On commence par cette citation de Michelet que vous donnez dans le livre qui rassemble les cours que vous avez donnés à l'École Polytechnique. Le livre s'appelle « Nous autres modernes », c'est chez Ellipse. Une citation magnifique de Michelet qui se termine par « Le don des larmes », une citation que vous mettez en italique ou que peut-être lui-même met en italique, j'en sais rien. Toute la question est de savoir ce qui vous intéresse dans cette expression. Que retenez-vous de ce « don des larmes » En quoi est-ce un signe de civilisation?
C'est en tout cas une réponse de Michelet à Hegel. Hegel disant « La raison ne peut s'éterniser auprès des blessures infligées aux individus, car les buts particuliers se perdent dans le but universel. Dans la naissance et la mort, la raison voit l'œuvre que produit le travail universel du genre humain. Ouais. C'est une vision somptueuse. La philosophie classique opposait la raison et l'histoire. La raison s'attachait au nécessaire, l'histoire c'était l'espace, le théâtre des choses contingentes. Depuis Hegel, on pense que l'histoire est à l'inverse, la raison où le théâtre où se déploie la raison. Mais la phrase de Hegel
est terrifiante.
Elle est terrifiante.
Voir le mal, c'est mal voir.
Exactement, elle est terrifiante et peut-être est-elle devenue imprononçable à l'issue du XXe siècle. Moi, j'ai été mis sur la voie de cette citation de Michelet par Elisabeth de Fontenay. Et j'y ai tout de suite été sensible parce que elle me faisait comprendre la raison pour laquelle j'avais été toujours mal à l'aise devant l'un des grands slogans de 68. « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. » Je n'aimais pas cette phrase car je savais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, un monde était mort. C'était la fin d'un monde. J'en voyais les survivants, je savais qu'ils allaient disparaître et qu'avec eux disparaîtrait une certaine forme de civilisation. Donc, à cette espèce de vigueur prométhéenne, j'avais envie d'opposer le geste d'Orphée, celui qui se retourne vers le vieux monde pour en retenir encore quelque chose. C'est cela peut-être le don des larmes.
Alors le prométhéisme, effectivement, vous en parlez, hein, vous opposez les Grecs qui vivaient dans un monde clos où il s'agissait de s'accomplir, au sport moderne, qui met en œuvre et en scène, dites-vous, l'aspiration inextinguible au dépassement de soi. La différence qu'il y a entre trouver sa place au sein d'une cosmologie ordonnée et accomplir une performance, dépasser ses limites, qui est le propre d'une injonction démocratique, au fond assez paradoxale. Juste un point encore sur le don des larmes. Il rappelle ce que dit Karamazov, qui dit « peut-être que Dieu existe, mais au fond je m'en fous ». Ivan Karamazov, « au fond je m'en fous, aucune existence de Dieu ne suffit à justifier la douleur d'un enfant. Au fond, c'est comme si vous revendiquiez un devoir de myopie, c'est-à-dire d'attention au présent, indépendamment du sens qu'une histoire rétrospective pourrait lui trouver et par là même de la façon dont elle pourrait le digérer, Alain Finkielkraut. Il y a des choses qui ne sont pas comestibles.
Oui, vous avez raison. Et il y a des choses qui ne sont pas comestibles. Et puis, on ne peut pas enfermer l'histoire des hommes dans l'idée de progrès. Ou, si vous voulez, on ne peut pas dissoudre la pluralité humaine dans le processus historique. C'est aussi, d'ailleurs, la leçon de Hannah Arendt, qui ne cesse de répéter cette évidence, ce truisme, cette lapalissade. Ce n'est pas l'homme qui habite la Terre, ce sont les hommes dans leur pluralité infinie. De l'homme, on peut avoir l'idée d'une espèce, mais de l'homme, on peut avoir aussi l'idée d'une histoire. L'histoire nous fait croire que l'humanité est un homme qui s'avance sans cesse vers le mieux. Alors d'abord, cette question du mieux se pose. Vous avez parlé du sport, mais aujourd'hui, tout le monde s'interroge. Ne va-t-on pas trop vite, trop haut et trop fort, en quelque sorte? Il y a une sorte d'inquiétude. On ne sait pas comment s'arrêter. Se pose à nous la question des limites. Et quand bien même elle ne se poserait pas, il faudrait toujours avoir une place en nous pour réfléchir au prix à payer pour le progrès.
La meilleure image des limites, peut-être, c'est le 100 mètres, dont on raccourcit comme Zénon, dont la flèche se rapproche à l'infini de sa cible, dont une limite qu'on recule indéfiniment et dont pourtant on se dit bien qu'elle se trouve quelque part.
Oui, et puis surtout, il y a des records qui font peur. Avant, il fut une époque où, en effet, le sport pouvait apparaître comme la grande métaphore de la modernité, la belle métaphore. Justement, celle du dépassement continuel. Nous savons que si un jour un athlète descend au-dessous des 9 secondes, ce ne sera plus tout à fait un homme. La peur du poste humain nous hante, et cette peur, je crois qu'elle est très légitime.
Donc, réhabiliter au fond cette matière molle, instable, et malgré tout fermement ancrée dans l'histoire qui est l'humain. On va rester sur ces problématiques en votre compagnie et réfléchir autour du fait que, quand on est attaché, comme vous le dites, à la promesse moderne de ne laisser personne à la porte du monde hérité, comment ne pas être anti-moderne dans ces conditions. Alain Finkielkraut, vous avez parlé de truisme tout à l'heure. Restons dans les truismes, on va parler d'une génisse tout de suite. C'est un extrait de L'insoutenable légèreté de l'être, un livre que vous aimez beaucoup, de Milan Kundera. Écoutez.
Une génisse s'est approchée de Teresa, s'est arrêtée et l'examine longuement de ses grands yeux bruns. Teresa la connaît. Elle s'appelle Marguerite. Elle aurait aimé donner un nom à toutes ces génisses, mais elle n'a pas pu. Il y en a trop. Avant, il en était encore certainement ainsi, voici une trentaine d'années, toutes les vaches du village avaient un nom. Et si le nom est le signe de l'âme, je peux dire qu'elles en avaient une, n'en déplaise à Descartes. Mais le village est ensuite devenu une grande usine coopérative et les vaches passent toute leur vie dans leurs 2 mètres carrés d'étable. Elles n'ont plus de nom et ce ne sont plus que des machina animatae. le monde a donné raison à Descartes. J'ai toujours devant les yeux Teresa assise sur une souche. Elle caresse la tête de Karénine et songe à la déroute de l'humanité. En même temps, une autre image m'apparaît. Nietzsche sort d'un hôtel de Turin. Il aperçoit devant lui un cheval et un cocher qui le frappent à coups de cravache. Nietzsche s'approche du cheval, il lui prend l'encolure entre les bras, sous les yeux du cocher, et il éclate en sanglots. Ça se passait en 1889, et Nietzsche s'était déjà éloigné lui aussi des hommes. Autrement dit, c'est précisément à ce moment-là que s'est déclarée sa maladie mentale. Mais selon moi, c'est bien là ce qui donne à son geste sa profonde signification. Nietzsche était venu demander au cheval pardon pour Descartes. Sa folie, donc son divorce avec l'humanité, commence à l'instant où il pleure sur le cheval. Et c'est ce Nietzsche-là que j'aime, de même que j'aime Teresa qui caresse sur ses genoux la tête d'un chien mortellement malade. Je les vois tous deux côte à côte. Ils s'écartent tous deux de la route où l'humanité, maître et possesseur de la nature, poursuit sa marche en avant.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné.
La défaite de la pensée, le mécontemporain, l'imparfait du présent. Bref, Alain Finkielkraut est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi.
Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas.
Alain Finkielkraut, l'enfance, revendiquer l'enfance ou se souvenir de l'enfance est une façon de protester contre le cours des choses ou l'inhumanité du cours des choses. Le statut des animaux également, hein, la question de l'humain, c'est l'une des grandes leçons d'Elisabeth de Fontenay d'ailleurs, et vous en parlez dans un chapitre intitulé « L'éclipse de la nature ». La question de l'humain passe aussi paradoxalement par le statut que les hommes accordent aux animaux, Alain Finkielkraut.
Oui, j'écoutais cet extrait de « L'insoutenable légèreté de l'être », cette phrase magnifique, Nietzsche, en mettant ses bras autour du cheval martyrisé, venait demander pardon
pour
Descartes. Et c'est étrange, si vous voulez. D'abord, c'est une manière d'intégrer ce geste final dans la pensée de Nietzsche. Mais Nietzsche est l'homme qui nous a invités à nous méfier de la pitié. C'est le grand dialogue de Nietzsche et de Rousseau. Rousseau, philosophe idéaliste et canaille, disait Nietzsche. La pitié, selon lui, était la ruse, l'arme du ressentiment. On avait pitié dans nos sociétés parce qu'on se réfugiait dans la pitié, on aimait avoir pitié parce que il est plus facile, disait Nietzsche, les anciens d'ailleurs pensaient dans ce sens, d'éprouver de la compassion pour le malheur d'autrui que de se réjouir de leur bonheur. L'expansion de la logique compassionnelle, disait-il, va de pair avec le rétrécissement de notre capacité d'admirer.
Et du souci d'autrui.
Oui. Et là, tout d'un coup, c'est comme si Nietzsche découvrait une pitié non contaminée par le ressentiment. Et on raconte aussi que quand Nietzsche se promenait et qu'il rencontrait, qu'il voyait une vache, il l'interpellait toujours en lui disant « Bonjour, mademoiselle ». Donc, oui, c'est cette évocation fait rêver, parce qu'en effet, la métaphysique, le dualisme occidental, qui s'est en quelque sorte radicalisé avec la modernité, postule une différence radicale entre l'homme et l'animal, et de cette différence, il fait, si vous voulez, le prétexte, la raison d'être de la domination de l'homme sur le monde, de sa capacité d'arraisonnement. Et peut-être est-il temps aujourd'hui, ce serait le sens d'une véritable pensée écologique, de réfléchir au propre de l'homme, en d'autres termes, de voir le propre de l'homme, dont, non dans la maîtrise des choses, mais dans la responsabilité. Au fond, le monde, la nature, est ce qui incombe à l'homme. Et l'homme a une capacité de responsabilité qui, en effet, le distingue des autres membres du règne animal.
Le Prométhée déchaîné réclame une éthique qui empêche le pouvoir de l'homme d'être une malédiction pour lui. Vous citez ça à propos de Hans Jonas et du principe de responsabilité. Voilà. Deux textes sont implicitement à l'œuvre dans ce que vous dites, je le dis pour nos auditeurs. La cinquième partie du discours de la méthode, hein, les animaux-machines, c'est là où le spécifiquement humain se comprend chez Descartes par exclusion, en un sens, du règne animal. C'est là aussi que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Comme, et puis la question de la technique chez Heidegger, où il est question de l'arraisonnement dont vous avez parlé. Une question de Mathilde Unger.
Oui, dans le texte de Kundera, il y a non seulement cette sensibilité à l'égard des animaux, à l'égard de la nature, mais il y a aussi une pensée très clairement nostalgique. Et d'ailleurs, la nostalgie est un des thèmes fondamentaux chez Kundera. Alors, j'aurais deux questions. D'une part, quel rôle peut jouer la nostalgie, le sentiment de nostalgie dans la critique de la modernité et dans cette modernité toute cartésienne qui fait de l'homme le maître et possesseur de la nature? Et ce que vous dites d'une nouvelle pensée écologique qui serait d'une autre façon respectueuse à l'égard de la nature, est-ce que cette pensée-là est elle-même nostalgique? C'est-à-dire, est-ce qu'on voudrait revenir à un moment d'union ou de meilleure considération pour la nature?
Union, je ne crois pas. Je ne plaide absolument pas pour une sorte d'englobement ou d'engloutissement de l'homme dans une nature maternelle. Mais je sais qu'aujourd'hui, en effet, la nostalgie a mauvaise presse. Qui dit nostalgique dit réactionnaire. Et il nous faut regarder de l'avant parce que, nous dit-on, le monde ancien est celui de l'inégalité. Donc, rien, c'est une grande noirceur. L'exigence d'égalité nous conduit à regarder devant nous. Et moi, je prétends que la critique de la domination est pauvre. Et tout mon propos, je le crois, je le comprends comme ça maintenant, et de soustraire la pensée critique au monopole de la critique de la domination.
Au fond, vous êtes barthésien, vous vous intéressez aux effets de pouvoir dans un discours, même le discours qui conteste le pouvoir.
Exactement, et aux effets de pouvoir, et je vois aussi les insuffisances. Regardez, parce qu'on vous dit, le mécontemporain, il regarde en arrière et il n'est jamais content. Bon. Mais d'un autre côté, quel est le grand succès éditorial du jour? Ce petit opuscule, ce petit livre qui ne quitte pas la liste des best-sellers depuis des semaines et des semaines. C'est bien « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Donc, on nous exhorte à l'indignation. Je ne suis pas sûr que celles-ci doivent être la seule modalité de notre souci du monde. Mais je constate que cette indignation est extrêmement pauvre. Nous devons nous indigner d'un pouvoir politique diabolisée, affublée de tous les défauts, de toutes les tares, qui voudrait, pour des raisons inexplicables, sinon par méchanceté pure, démanteler les mesures et les réformes issues du programme de la résistance. Et on nous invite aussi, quand il s'agit de politique extérieure, à critiquer, à nous indigner exclusivement de la politique israélienne. Je vois, moi, de tout autre sujet d'inquiétude et d'indignation. Et notamment, et ça c'est un thème kundérien, très présent dans l'insoutenable légèreté de l'être et dans l'immortalité, devant l'enlaidissement du monde. Voilà une question que une pensée écologique digne de ce nom devrait prendre à bras le corps. Pouvons-nous nous accommoder d'un monde de plus en plus laid ? Pouvons-nous nous accommoder précisément de la disparition de la frontière, de toutes les frontières, mais notamment de celle-ci vitale pour toute civilisation entre les villes et les campagnes, et de la naissance en lieu et place de cette opposition d'une banlieue universelle. Voilà des questions qu'inspire peut-être la nostalgie, mais qui, dans un discours politique, devraient avoir le droit de citer. Elles ne l'ont pas. Celui qui les pose est immédiatement traité de réactionnaire, ce qui, dans la langue d'aujourd'hui, veut dire, si vous voulez, nul et non avenu.
Alors, justement, vous dites que la nostalgie est targuée d'être réactionnaire parce qu'on a la passion de l'égalité, parce qu'au fond, on attribue tous les maux à cette logique de la domination. Alors, pour justement trouver une alternative à cette logique de la domination, enfin, je pense que c'est quelque chose à laquelle vous tenez aussi, c'est au contraire de demander un principe de responsabilité, enfin de ne pas perpétuellement se disculper des choses en les attribuant au pouvoir ou à ce qui nous indigne de façon générale. Alors j'aimerais vous soumettre une citation de Nietzsche, justement, au paragraphe 3 des considérations inactuelles, qui dit « Celui qui se tourne avec amour et fidélité vers le monde d'où il vient et dans lequel il s'est formé, par cette pitié, il s'acquitte en quelque sorte de son existence. » Alors là, chez Nietzsche, au contraire, on a l'impression que dans cet excès de nostalgie, dans la célébration, dans la vénération du passé, il y aurait d'une certaine façon une inclination à s'acquitter de son existence et à ce moment-là, à s'acquitter de sa responsabilité.
Oui, mais je ne connaissais pas cette citation de Nietzsche. Enfin, j'avais dû la lire, mais je ne l'avais pas retenue. Nietzsche, en effet, parle, et à juste titre, j'espère que ça va dans le sens de ce que vous dites, de la vertu de l'oubli. Hein, nous ne devons pas non plus ployer sous le passé, hein, la tradition, le poids des générations mortes, comme disait aussi Marx. Mais nous ne sommes plus dans cette situation. Aujourd'hui, nous sommes protégés du passé par des murailles vraiment très hautes. Le présent nous enferme complètement. Nous sommes voués à l'actualité perpétuelle dans ce monde horizontal. Le passé peut être ou devrait être un recours, un moyen justement de fuir les évidences du temps, l'esprit du temps. Et ce devrait être le sens de l'enseignement, justement. Hein, Alain qui disait « L'école est un lieu admirable. J'aime que les bruits extérieurs n'y entrent point. J'aime ces murs nus. » Murs nus de l'école parce que c'est un lieu où, en quelque sorte, peuvent parler les morts. Et ce qui nous menace aujourd'hui, c'est une rupture du dialogue avec les morts.
Homer est nouveau ce matin et rien n'est aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. C'est une phrase de Peggy qui permet de faire peut-être une différence très féconde, en tout cas intéressante, qu'il faut vraiment creuser, entre d'un côté le présent, et par présent, il faut ici entendre Homère. Et de l'autre côté, l'actualité, l'actu, c'est-à-dire le flot écumeux de ce qui ne change pas, et d'ailleurs dont le fait que ça ne change pas est avéré par l'homogénéité des formats qui sont employés à la restituer. Au fond, l'enjeu est de savoir de quelle manière on est intempestif, c'est-à-dire on parle de ce qui est, du monde qui nous observe ou qui nous concerne, tout en s'élevant, et c'est encore une phrase de Nietzsche, au-delà ou au-dessus de la déficience du présent, Alain Finkielkraut.
Oui, vous avez raison. Alors, bien entendu, il faut nuancer les choses. L'actualité politique, nationale et internationale, est en effet, et c'est très normal, un sujet inépuisable de conversation. Elle nourrit non seulement...
Et d'indignation.
Et d'indignation parfois, d'interrogation aussi, je l'espère. Elle nourrit le débat public, mais aussi les dialogues que nous pouvons avoir avec nos amis. Que serait l'amitié si elle ne se vouait qu'à la confidence ? Donc, je ne méprise pas l'actualité. Et d'ailleurs, je suis de ceux qu'inquiète beaucoup... les nouvelles technologies, quand j'apprends que avec elles se réduit justement toujours davantage la lecture des journaux. Hein, c'était une belle phrase de Hegel quand même. Hein, la lecture
la
du
prière
journal,
réaliste du matin.
C'est la prière de l'homme moderne, la prière réaliste du matin. Si cette prière disparaît, que nous restera-t-il ? Donc, il y a un moment où on se dit, il n'y a pas que les journaux, et puis aussi, il faut se dire, mais que se passera-t-il quand il n'y aura plus les journaux, quand il n'y aura plus que ces déambulations, ce vagabondage distrait sur Internet ? On comptabilise les lecteurs avec la presse écrite, les journaux comme les livres participent du monde des choses. Dans le monde des non-choses, il n'y a plus de lecteurs, il n'y a plus que des visiteurs. Voilà aussi un sujet d'inquiétude. Donc, étant donné le vieillissement des véhicules de l'actualité, je ne serai pas aussi radical aujourd'hui que Peggy l'était, même si, bien entendu, cette phrase est pour moi un viatique. Quand j'enseigne.
Je hais les portables, j'en souffre partout. Je constate avec effroi qu'il n'est plus de trottoirs, plus de terrasses, plus de boutiques, plus de musées, plus de déserts indemnes de leur sonnerie guirette et de leur exaspérant babillage. Mais faute de pouvoir les désinventer ou mettre à l'amende leurs utilisateurs, je trompe mon accablement en me faisant le secrétaire fébrile des monologues syncopés qui s'entrecroisent au-dessus de ma tête en ce jour de transhumance dans le TGV Paris-Avignon. Allô Marie ? Je suis à Valence. Et toi ? Hier soir, nickel, je suis passé par l'intérieur, impeccable sur Paris. Aller-retour, 50 minutes. Thierry, c'est Nathalie à l'appareil. Le train a du retard, un quart d'heure, 20 minutes. À tout à l'heure, ami. Allô ? Je viens de m'apercevoir que l'agence s'est plantée, qu'ils m'ont pas réservé de retour pour demain. Ça fait chier, vraiment. Est-ce que tu pourrais me faire une nouvelle réservation pour dimanche en disant qu'ils se sont plantés ? Ils voudront pas me rembourser. Attends. 300 balles perdues par leur faute, c'est pas possible. Voilà, il faut toujours tout vérifier soi-même. On ne peut jamais faire confiance à personne.
To you. Once again, it's another rap bandit, feeling that I and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey yo yo. Knocking on my door saying, hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand.
Kundera, Peggy, Finkielkraut et du hip hop, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
To you, your
Mathilde Unger.
Alors nous serions enfermés dans le présent, enfermés dans l'actualité. Il y a une phrase que vous citez dans Le Mécontemporain qui m'a étonnée et sur laquelle je voudrais vous poser une question. C'est une citation que vous donnez de Daniel Alévi en Dreyfusard repenti, qui dit « Voici telles institutions, cette armée, cette église avec toute leur tare. Pourtant, elles existent, si peu de choses existent, et parce qu'elles existent, elles sont vénérables. » Alors, j'aimerais vous demander à la fois comment la critique de la modernité doit se distancier par rapport au présent, et notamment par le biais de cette nostalgie qui nous ramène vers le passé, qui essaye de voir ce dont on doit être nostalgique ou ce qu'on pourrait regretter, et d'autre part, cet argument qu'on attribue en général à la pensée, des conservateurs, à savoir tirer de la valeur des choses qui existent.
Mieux vaut une injustice qu'un désordre.
Tirer de l'existence une certaine valeur. Comment tenir ensemble ces deux choses ?
Vous avez raison, c'est très difficile. La phrase d'Alévi est belle, justement. Les institutions existent, si peu de choses existent. C'est une phrase absolument magnifique. Donc, ça rappelle les critiques admirables adressées par Burke à la Révolution française. Edmund Burke, quand on lit ses réflexions sur la Révolution française, on est frappé, on est même stupéfait de leur force, de leur puissance. Et cela, évidemment, comporte un terrible danger. Le danger, en effet, de confondre le bien et l'ancestral.
D'être le réac qu'on accuse les réacs d'être.
Voilà. Et le réactionnaire, c'est celui qui confond le bien et la transition ancestrale. Et d'ailleurs, l'un des penseurs dont on dit aujourd'hui qu'il est le fondateur du néoconservatisme, à savoir Léo Strauss, a bien montré que la philosophie naissait d'une rupture entre ce qui est bien et ce qui est ancestral, entre le nomos et le fusis, et la fusis. Tout d'un coup, on se pose la question, qu'est-ce que la tradition et ses récits ne suffisent pas? Et donc, nous avons, contre cette vision traditionnaliste de la tradition, si j'ose dire, une autre tradition qui est la tradition philosophique. C'est sur celle-ci qu'il faut s'appuyer pour résister au grand charme de la phrase d'Alévi.
C'est la différence, par exemple, que vous faites entre Peggy et Barrès dans l'utilisation
faites
de ces deux figures.
Bien
juste
sûr.
Une question. Montaigne et Pascal à sa suite disent l'un et l'autre qu'ils disent ceci, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Comment vous situez-vous par rapport à cette phrase ?
Écoutez, lecteur que je suis de Peggy, je me inscris en faux contre cette phrase. Après tout, c'était tout l'enjeu de l'affaire Dreyfus.
Justement.
Car il est vrai que celle-ci, que cette affaire ne pouvait que provoquer un très grand désordre en France. Elle affaiblissait l'armée française à un moment où celle-ci devait être au contraire renforcée, car le conflit avec l'Allemagne se profilait à l'horizon. Eh bien non, à ce moment-là, il fallait prendre au nom de la justice le risque du désordre.
Dans J'accuse, Zola écrit une phrase qui, en d'autres circonstances, en d'autres lieux, en d'autres temps, vous aurait donné de l'urticaire. Il dit « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ».
Oui, non, mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'action sans une certaine forme d'optimisme, si vous voulez. Ben oui, le pessimisme mène, si vous voulez, à l'inertie totale. Le pessimisme, c'est le regard désenchanté ou sarcastique sur le monde tel qu'il va. Dès lors qu'on intervient, on est contraint en quelque sorte à l'optimisme, et donc on peut se laisser aller à ce genre de phrase enivrante.
Est-ce que vous pourriez pousser l'optimisme jusqu'à adhérer à une certaine idée du progrès ?
Écoutez, j'adhère à une certaine idée des Lumières, qui est offrir le savoir et la culture à tous. C'est ça, les Lumières. Ce n'est pas une philosophie particulièrement novatrice, c'est l'idée que nul ne doit être soustrait aux bienfaits de la philosophie, des sciences et des arts. Et évidemment, on peut penser cela, c'est penser que l'humanité est susceptible de progrès. C'est vouloir ce progrès. Ce que je constate aujourd'hui, c'est l'infidélité absolue de notre temps au nom de l'égalité à cet idéal. C'est-à-dire une autre idée de l'égalité à, si vous voulez, c'est déployé, selon laquelle, au fond, nous serions tous toujours déjà égaux. Et donc, il faut préserver l'égalité des cultures et il faut aussi remettre en cause la culture au singulier comme une sorte de modalité de l'intimidation sociale. C'est un document qui a été diffusé par le ministère de la Culture sous le titre « La culture pour chacun ». Et il est écrit dans ce document que le principal obstacle à la démocratisation culturelle, c'est la culture elle-même. Une toute autre idée de la démocratie règne aujourd'hui, une toute autre idée du progrès. Et je suis traité de réactionnaire parce que je suis un progressiste d'avant.
Un progressiste d'avant. Vous citez d'ailleurs cette phrase, je ne sais plus à qui l'entend, c'est dans votre livre Nous autres modernes, avancer vers l'arrière, qui
c'est
est en elle-même assez éclairant.
C'est l'échec Kolakowski.
Voilà.
Le dissident polonais qui est mort il y a quelques années.
Comment vous situez-vous ? Quelle définition donnez-vous de la culture ? Si on résume très grossièrement la culture à une alternative entre d'un côté ce qui relève du particularisme culturel, c'est ma culture, comme on dit, hein, c'est ma culture gitane, c'est ma culture juive, c'est ma culture musulmane, peu importe. Peu importe les déterminants, d'ailleurs, ils ne sont pas forcément religieux. Hein. L'ancrage, au fond, dans une particularité culturelle, donc cette définition restrictive de la culture, mais à laquelle on peut reconnaître celui que vous citez, c'est Herder qui le dit, la chaleur maternelle du préjugé, et une définition affranchissante de la culture qui consisterait par la culture à s'élever au-delà de ses déterminations et comme on s'élève au-delà de ses idées ou au-delà de ses opinions. La grande culture, au fond, celle qui s'adresse à ce que les hommes ont en commun. À quelle idée de la culture souscrivez-vous le plus, en premier, au fond ? Quelle est votre priorité, Alain Finkielkraut ? Le rappel à la chaleur maternelle du préjugé ou l'affranchissement par la culture des déterminants singuliers ?
Bien sûr, je choisirais la deuxième version, même si je ne sous-estime pas, si vous voulez, le rôle, la place des appartenances dans la vie humaine. Mais je pense à Ricoeur, contrairement à la tradition qui voudrait nous faire croire que nous nous connaissons par intuition immédiate, ce n'est que par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture, que nous accédons à la vérité, là je cite de mémoire, de nous-mêmes et du monde. Que saurions-nous de la haine, de l'amour et des sentiments éthiques en général si cela n'avait pas été porté au langage et articulé par la littérature ? La littérature comme littérature mondiale, Weltliteratur.
J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio. Un sonolore, combiné cassette, super balade, un truc hyper chouette. Cette chanson m'avait bien plu, mais le programme fut interrompu.
Le Super Ballade Sonolore est un autoradio combiné cassette. Et quand un type dans mon genre vient vous casser les oreilles, vous appuyez sur votre cassette et c'est reparti.
J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio. Un Sonolore combiné cassette, Super Ballade, un truc hyper chouette.
Dans une chaussette ordinaire, le pied... Mais dans une chaussette fil d'art thermo-ambiant, le pied... Car la chaussette fil d'art thermo-ambiant est composée de viscose qui... La transpiration, de laine pour que ce soit... De polyamide pour la... Et plus on... La chaussette fil d'art, plus elle... En qualité. Vous trouverez dans tous les magasins fil d'art la chaussette thermo-ambiant à des prix... 20% de réduction jusqu'au 18 mai.
Mon homme est un vrai Jules, mais le soir quand il rentrait en m'embrassant, il se déchaussait et il me disait j'ai le pied qui me brûle. Et ça se voyait dans ses yeux, il avait le pied tout fumeux, mou et humide. Alors par un bon matin, j'ai filé plus que dardard dans un magasin fil d'art pour que des pieds mon homme souffre moins. La chaussette fil d'art, la chaussette fil d'art, la chaussette fil d'art est thermo ambiant. La chaussette fil d'art, la chaussette fil d'art est tricotée de fil absorbant.
Alain Finkielkraut, on sait le grand cas, pour la critiquer, que vous faites de la publicité ou du régime publicitaire sous lequel nous vivons. Et pourtant, dans ce livre, Nous autres modernes, vous citez un moment Lipovetsky, et une phrase étonnamment bienveillante. Il dit « Le marketing de la pensée accomplit un travail démocratique.
Voilà.
Même s'il consacre régulièrement des starlettes de kermesse, il dissout en même temps les figures absolues du savoir et les attitudes de révérence immuables au bénéfice d'un espace d'interrogation à coup sûr plus confus mais plus large, plus mobile, moins orthodoxe. Est-ce que il n'y a pas, si vous citez Lipovetsky ici, peut-être chez vous, l'hypothèse finalement de regarder la publicité, le phénomène publicitaire avec la bienveillance qu'on doit à certes quelque chose qui dilue la valeur d'usage dans la valeur d'échange, mais qui en même temps ménage justement la possibilité des échanges et des désirs contrariés.
Alors, je vais vous répondre en deux parties. D'abord, j'ai écouté cette merveilleuse chanson de Gotener.
C'est Gotener,
sur les chaussettes. Et vous savez, il ne faut pas sous-estimer le progrès. L'autre jour, j'ai réalisé une émission très intéressante, à mon avis. Mais j'écoutais beaucoup, donc je ne me vante pas en disant cela. J'étais vraiment très spectateur sur les nanotechnologies, avec notamment Étienne Klein et Olivier Rey. Et j'ai appris en lisant le livre d'Étienne Klein que les nanotechnologies, dans les chaussettes, aller changer la vie des chaussettes et de leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'avec des espèces de petites particules, on allait bientôt pouvoir dissiper les mauvaises odeurs. On ne transpirerait plus, on ne puerait plus des pieds. Et comme Étienne Klein est alpiniste, il est très fasciné par ce progrès, car l'alpinisme, c'est aussi les refuges, c'est la promiscuité, et c'est donc les mauvaises odeurs. Donc une promiscuité sans mauvaises odeurs, voilà un admirable progrès auquel il faut penser quand on se livre à une critique trop radicale. Bon, redevenons sérieux.
Je ne suis pas sûr qu'on ait cessé de l'être avec cet exemple.
Non, je ne suis pas sûr non plus, mais c'était ça. C'était le sel de l'histoire.
Le sel de l'histoire.
Alors, la publicité. Bon, il m'arrive de rire à des publicités. Bon, en général, je suis énervé quand ça coupe un programme, etc. Et je trouve que les publicités prennent de plus en plus de place. Certaines sont créatives, certaines sont amusantes. Je n'en disconviens pas. Ce que je trouve absolument insupportable et surtout décourageant, déprimant, c'est d'en faire un vecteur démocratique. Nous sommes entrés dans une société très inégalitaire sur le plan économique, mais en même temps hyper démocratique, car elle veut voir l'égalité régner par nous. D'où sa fascination pour régner partout. D'où sa fascination pour Internet, espace merveilleusement horizontal, où tous les discours ont droit de citer, où tous les principes de contrôle, d'interdit et de censure sont pulvérisés.
Mais censurés.
Oui. Mais alors, on vous dit, bah oui, finalement, les révérences ne fonctionne plus. Chacun a son mot à dire avec cet univers publicitaire qui est un univers de l'obsolescence accélérée de toute chose. Mais je parlais de l'admiration tout à l'heure. Il faut aussi parler dans le même sens de l'autorité. L'autre phase de l'autorité, c'est la confiance. Quand on est jeune, quand on est adolescent, on fait confiance. C'est-à-dire, on vous dit de tel livre que c'est un chef-d'œuvre, on le lit comme tel, alors qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas simplement, on fait confiance. Et dire, eh bien non, maintenant, plus personne ne fera confiance. Et chacun décidera selon ses goûts. Cela rappelle l'histoire du baron de Münchhausen qui est enfoncé dans la mare et qui peut vouloir s'en sortir en se tirant lui-même par les cheveux. Voilà, si vous voulez, la situation faite à l'homme et à l'adolescent moderne par la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui.
On arrive presque au terme de cette émission. Mathilde Unger, une question.
À travers de votre discours sur la publicité, sur tous ces éléments du monde moderne, on a presque l'impression que vous avez une passion pour ces détails, pour ces mythologies du monde contemporain. Est-ce qu'on peut y voir, à côté de la satire sociale et de l'exaspération que vous inspire cette nouvelle démocratie, une certaine sensibilité à une esthétique moderne ?
Ah, façon de Barthes, hein, saveur et savoir au fond.
Une esthétique moderne, oui. Et vous citiez Kundera tout à l'heure. Kundera, l'un des concepts centraux de sa pensée qu'il développe dans l'art du roman, c'est le concept de modernisme anti-moderne, si vous voulez. On voudrait nous faire croire que ceux qui ont un regard critique sur la modernité ne sont que des nostalgiques du temps passé. Alors que de Gombrowicz à Fellini, ce sont aussi, ou en passant par Musil, d'admirables créateurs de formes. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, la modernité artistique avec l'adhésion à tous les objets, à tous les fétiches du monde moderne. C'est le contraire. Alors, je finirai en citant un penseur très moderne et très anti-moderne, Günther Anders, le premier mari de Hannah Arendt. Le deuxième volume de son grand ouvrage, L'obsolescence de l'homme, vient de sortir aux éditions Fario. Et voici ce qu'il dit. Il ne suffit pas de changer le monde, nous le changeons de toute façon. Il change même considérablement sans notre intervention. Nous devons aussi interpréter ce changement pour pouvoir le changer à son tour, afin que le monde ne continue pas ainsi à changer sans nous.
L'homme pressé de Noir Désir pour clore cette émission en votre compagnie, Alain Finkielkraut, merci d'être venu. Je rappelle quelques titres de vos livres et je renvoie nos auditeurs à notre site internet. La défaite de la pensée, le mécontemporain, l'imparfait du présent et Nous autres modernes, ce sont vos cours à Polytechnique.
Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont. J'ai des profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, j'ai dans l'immobilier. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Je connais la Chupardie et puis le reste aussi. Mes connaissances uniques et la femme que je fréquente, évidemment.
Allez, retour au silence et au temps long avec le journal des Nouveaux Chemins tout de suite et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Le grand tort de la nature est de n'avoir pas su se borner à un seul règne. À côté du végétal, tout paraît inopportun, malvenu. Le soleil aurait dû bouder à l'avènement du premier insecte et déménager à l'irruption du chimpanzé. De l'inconvénient d'être né, c'est le titre du livre de Sioran dans lequel on trouve cette phrase, titre qui en lui-même laisse entendre ce même dégoût pour l'humanité tout entière. Et pourtant, si naissance égale douleur, il faut bien vivre, et pour vivre, mieux vaut écrire ou mieux célébrer l'écriture. Bonjour Pierre Pachet.
Ah, bonjour Adèle Bonnet.
Quand je vous ai proposé de venir participer à cette semaine sur Sioran, vous avez choisi de venir parler d'un texte peu connu de Sioran qui s'appelle « Anthologie du portrait de Saint-Simon à Tocqueville », qui est un recueil de portraits brossés par des auteurs du XVIIIe siècle pour la plupart, XVIIIe siècle et début XIXe siècle. Et ce texte n'apparaît souvent pas dans la bibliographie officielle de Sioran et pourtant, il est emblématique, il me semble, de la manière de travailler de Sioran puisque l'art du portrait est une forme qui, selon lui, est parfaitement adaptée à exprimer la lucidité sur l'être humain et l'ironie qui en découle parfois, Pierre Pachet.
Oui, enfin, c'est un livre qui est surprenant dans la bibliographie de Sioran parce que, en réalité, de ce livre, il n'a écrit que quelques pages, la préface, mais il a composé le choix. Et on peut saisir quelqu'un, le comprendre par la façon dont il lit et dont il sélectionne. Et cette sélection est merveilleuse. Et en réalité, elle va, à mon sens, tout à fait à contre-courant du penchant de Sioran, qui l'exprime d'ailleurs dans sa préface, vers l'attitude moraliste. Ce que vous avez rappelé, l'homme n'est ce que ceci, etc. Or, les auteurs qu'il cite, de, je sais pas, jusqu'à Tocqueville...
De Saint-Simon à Tocqueville.
Oui, souvent ce sont des femmes, la comtesse de Boigne, des gens qui ont un art du portrait extraordinaire, pratique un regard sur les individus qui est tout à fait différent de celui de Sioran. Justement, c'est un regard qui s'intéresse à la singularité de chacune des personnes, à sa bizarrerie, quelque chose que Sioran fait rarement. Lui, au contraire, il est attiré par des considérations pessimistes et dans lesquelles il se vautre avec délectation sur l'ignominie de notre condition.
Et c'est ça qui est fascinant. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs à la préface, effectivement, à ce texte, préface de Sioran qui fait une vingtaine de pages et qui est vraiment magnifique et très, très claire et qui exprime bien ce que vous dites, à savoir, on y voit dans cette préface la surprise de découvrir Sioran qui célèbre quelque chose et qui célèbre l'art du portrait. Il distingue les moralistes des philosophes et il écrit « Le véritable moraliste n'est jamais intéressé. Et comme il dénonce les maux immanents n'importe quel genre de société, il exprime et attaque son temps tout en le dépassant, c'est dire que son fiel ne date pas. » Et donc oui. Là, on est vraiment, on s'inscrit bien dans cette semaine sur les mets contemporains, pour reprendre l'expression d'Alain Finkielkraut, puisqu'on voit bien que là, à travers les portraits des moralistes, on a là des dénonciations qui dépassent un air du temps.
Enfin, il y a une différence entre les moralistes, à proprement parler, je ne sais pas, Pascal ou autre, qui, et ces auteurs de portraits qui, eux, ne sont pas des moralistes, à proprement parler, mais des gens passionnés par la bizarrerie de leurs contemporains. C'est le cas de Saint-Simon, qui est un maître insurpassable. Enfin, je veux dire, le Saint-Simon du XVIIe siècle.
Voilà, là, on parle de Saint-Simon, le duc, qui a écrit sa mémoire, ça. Et non pas le Saint-Simon, le comte, qui est le fondateur du Saint-Simon.
Ces femmes qui, dans la vie des salons, relèvent la singularité de telle ou telle personne. Et là, il y a quelque chose que Sioran ne sait pas faire. Et en même temps, ça témoigne de quelque chose qu'il admire profondément, à quoi il a voué sa vie, c'est la beauté de la langue française classique. Cette langue qui s'est formée dans la culture des salons, au fond beaucoup sous l'influence des femmes, et langue que, par une espèce de génie mimétique, il est arrivé à adopter pour lui-même. Cet amour de la langue française est très émouvant chez Sioran. Au fond, il lui a donné sa vie, son œuvre. Il s'est transformé de cet intellectuel surdoué et agité roumain en un écrivain français proche de ceux qu'il admirait.
Voilà, et c'est en ça que cette anthologie de portraits est effectivement peut-être lue comme une déclaration d'amour à la langue française. Il écrit que le portrait est moins exigeant que la maxime, même s'il est le plus souvent comme une maxime éclatée qui s'élève à la verve ou au vertige, qui évoque l'infini par l'accumulation des traits et la volonté d'être exhaustif. Nous assistons alors, écrit-il, à un phénomène qui, à l'intérieur de la littérature, ne se produit qu'une fois, à un cas merveilleusement aberrant, celui d'un écrivain qui, à force de se sentir trop à l'étroit dans une langue, la dépasse passe, s'en évade, avec tous les mots qu'elle soutient. Il les violente, les déracine, se les approprie pour en faire ce que bon lui semble, sans aucune considération pour eux, ni pour le lecteur, auquel il inflige un inoubliable, un magnifique martyr, que Saint-Simon est mal élevé, écrit-il. Comment comprend-on cette fascination pour Saint-Simon, précisément, dont il dit qu'il est son idole ?
Oui, mais comment ne pas être fasciné par Saint-Simon ? Parce qu'il est d'une liberté de ton à l'égard de tous ces grands personnages qu'il fréquente, qu'il décrit, qui est incroyable. Mais en même temps, il y a beaucoup d'excès dans les jugements que vous venez de lire de Cioran sur ces moralistes. Il exagère parce qu'il entre dans ses portraits, à l'exception sans doute de Saint-Simon, beaucoup de tendresse pour les personnages qui sont décrits. Je pense au portrait de Julie Talma, qui était un personnage que Benjamin Constant a tellement aimé, ou au portrait de Benjamin Constant, ou au portrait que fait Tocqueville, ou au portrait que fait la comtesse de Boigne. Ce sont des portraits qui témoignent d'une société dans laquelle il y a de la mondanité, mais en même temps beaucoup de respect de la langue, beaucoup de respect des gens. Et Cioran exagère, parce que dans sa préface, cette courte préface, c'est aussi, il se livre aussi à une sorte de diagnostic sur la culture française, pour dire, oui, cette culture française, elle est allée trop du côté de l'homme de lettres et pas assez du côté du penseur. Il exagère quand il dit que Rousseau est un homme de lettres. C'est faux. Rousseau n'est pas qu'un homme de lettres, c'est un grand penseur aussi.
Oui, c'est ce qu'il dit notamment en citant Tocqueville. Hein, Tocqueville dit « Ce que j'appelle l'esprit littéraire en politique consiste à rechercher ce qui est ingénieux et neuf plus que ce qui est vrai, à aimer ce qui fait tableau plus que ce qui sert. » Et donc le problème du peuple français serait donc qu'il juge trop souvent en politique comme un homme de lettres. Voilà, donc merci beaucoup Pierre Pachel. Le livre dont on parlait aujourd'hui, c'est l'anthologie du portrait de Saint-Simon à Tocqueville. C'est donc par Cioran et en Troussa aux éditions Gallimard. Merci d'être venu en parler aujourd'hui.
Merci Adèle, merci à tous. Alors cette fois-ci, c'est moi qui vais faire une petite annonce. Tiens, c'est un forum organisé par le Collège international de philosophie, intercession philosophie et médias. Ça se passe le jeudi 7 avril au lycée Henri IV à 18h30. Un forum modéré par Mathieu Pot-Bonneville et Barbara Cassin, rien de moins. Alors faire de la philosophie dans les médias, est-ce vendre son âme ? Comment les médias échappent-ils à la tentation de l'immédiat ? Comment ne pas céder sur le fond tout en s'adressant au plus grand nombre ? Comment comprendre la discordance des rythmes, l'écart des langages, les contraintes liées à une diffusion de masse ? Bref, comment revenir sur le jugement sévère que la philosophie porte sur les médias ? Et réciproquement, quel est le statut de ses intercesseurs ? Autant de questions qui seront posées donc dans ce forum du Collège international de philosophie, dont je redonne le lieu et l'adresse. C'est le jeudi 7 avril à 18h30 au lycée Henri IV et nos auditeurs, vos auditeurs, pourront notamment vous y entendre, Adèle, ainsi que notre camarade Caroline Brouet, qui travaille aussi à France Culture et qu'on retrouve tous les jours dans la grande table. Voilà, c'était l'annonce du jour. Merci à tous, hein. Cioran et Finkielkraut, c'était donc le bonheur du jour, une émission que vous pourrez retrouver, dont vous pourrez vous indigner sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions précédentes et une bibliographie patiemment remise à jour tous les jours pour vous, chers auditeurs. Je dis cher auditeur et je le dis au singulier, non parce que l'auditeur est abstrait, mais parce qu'au contraire, les Nouveaux Chemins ne s'adressent qu'à des individus. Suite demain de cette semaine sur l'imparfait du présent, on y parlera et pour cause, comme on revient à sa source, de Jean-Jacques Rousseau, car toutes les époques ont leurs mécontemporains et pourtant ils sont tous convaincus de la pertinence et de la singularité de leur diagnostic, ce qui est étrange. Et si le dépit que l'époque nous inspire était d'abord l'effet d'un caractère, plus que des signes objectifs de décadence, c'est entre autres et implicitement la question qu'on se posera demain en parlant de Rousseau. 10h59 et des poussières sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.